Bonsoir. Le commissaire général de la police nationale congolaise se dit déterminé à faire de cette institution une police véritablement professionnelle au service de l'État et de la population. Il a dit le week-end dernier à Kinshasa l'ouverture de l'atelier de formation organisé à l'intention des commandants de la police nationale congolaise. Pour le général Charles Bissengimana, l'amélioration de la qualité du travail de la police passe par la dotation par l'autorité publique des moyens conséquents. Comment analyser cette déclaration? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 18 novembre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats colonel Jean Bosco Ndonda. Il est commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise. Colonel Ndonda, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national de l'opposition et cadre de l'UNC, les membres de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Et Jean-Jacques Ondo, expert militaire et analyste politique. Monsieur Ondo, bonsoir.
Bonsoir madame Couté, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir aux co-intervenants.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Adrien Lobakwei depuis Kananga au Kasaï central. La déclaration du commissaire général de la police est une très bonne initiative, mais la réussite de son projet passe par la formation sans complaisance des policiers, la dépolitisation de la police et la non-instrumentalisation de celle-ci. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le général Charles Bissengimana se dit déterminé avec tous les officiers sous son commandement à faire de la police nationale congolaise une police professionnelle au service de l'État et de la population. Il plaide notamment pour que les policiers soient recrutés parmi les meilleurs jeunes dans les universités. Le chef de la police congolaise s'exprimait lors de l'ouverture d'un atelier de formation le week-end dernier à Kinshasa sur la déontologie et la sécurisation de la population organisée à l'intention des commandants de la police. On écoute le général Charles Bissengimana, commissaire général de la police, au micro de Michel Kifinda.
Celui qui sème mal récolte mal. Nous avons dit que le problème est biaisé à partir du début. Par le passé, avant la loi sur la réforme, les recrutements qui étaient opérés au sein de la police concernaient beaucoup plus les délinquants. Ce n'est pas parce qu'un délinquant a changé d'uniforme qui quitte la vie civile, qui rentre la police, qui va être performant ou qui va changer réellement. Nous voulons que le recrutement soit un recrutement sélectif, qu'on sélectionne le meilleur de nos jeunes gens qui sont dans nos universités, qui viennent rejoindre la police et ils feront une bonne sémence au sein de la police et nous pouvons ainsi améliorer la qualité des éléments et des cadres de la police nationale congolaise. Et donc, nous devons les former, mais en plus de les former, nous devons les équiper et en plus de les équiper, nous devons leur donner les infrastructures de travail. Et nous devons nous assurer que nous ferons le suivi pour savoir que le travail est correctement bien fait. À ce titre seul, nous aurons une bonne police.
C'était le général Charles Bissengimana, commissaire général de la police nationale congolaise, colonel Jean Bosco Ndonda. Je rappelle que vous êtes commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise. On vient de suivre le général Charles Bissengimana qui se dit déterminé à faire de cette institution, disons, de la police, une police véritablement professionnelle au service de l'État et de la population. Est-ce qu'il faut comprendre par là que nous n'avons pas encore une police professionnelle en RDC?
Bien, merci madame. Je crois que, comme vient de le dire le commissaire général de la police nationale congolaise, la professionnalisation de la police nationale congolaise est un vœu. Il est inscrit dans un processus et la marche, elle est déjà visible, elle est perceptible. Et donc, comme nous disons que c'est un processus, ça prendra un peu de temps, c'est vrai.
Combien de temps? Ça fait presque 10 ans qu'on parle de la réforme de la police.
Naturellement, on ne pourra même parler de 50 ans. on pourra même parler d'autant d'années. Les pays qui ont commencé à réformer leurs services ne sont pas encore à la fin. Donc nous ne sommes qu'au début. Et cette politique, comme vous le connaissez, c'est une politique qui est encore jeune. Elle est née en 1997, comme vous le savez. Et peu de temps après, elle a entamé le processus de la réforme. Et bien entendu, cette réforme, comme je le dis, c'est un processus. C'est un processus, nous y allons lentement, mais nous posons des bases sûres pour une police républicaine au service de la nation.
Alors, on a suivi le général. Pour lui, l'amélioration de la qualité du travail de la police passe par la dotation par l'autorité publique de moyens conséquents. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une police professionnelle, avoir des moyens conséquents? C'est suffisant pour avoir une police professionnelle, véritablement au service de la population et de l'État?
C'est un des éléments de réponse par rapport à votre préoccupation. Comme pour dire que pour que nous ayons une police professionnelle, nous devons avoir des hommes en son sein bien formés, bien équipés, bien motivés. Et alors, ils peuvent bien faire le travail. Au fait, après tout, le métier du policier, c'est justement la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et pour qu'un policier puisse sécuriser vos biens, bien sécuriser vos biens et bien vous sécuriser vous-même, il faut qu'il soit bien formé. Parce que c'est une profession qui a une déontologie, qui a un art, et donc qui nécessite un comportement approprié. Vous comprenez? Et par rapport à ça, il faut que les policiers disposent des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de son service. Il faut qu'ils disposent des moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions. Il faut qu'ils puissent disposer de tout le nécessaire pour qu'ils soient motivés en tant que personne humaine, qui a une famille, et donc, qui est au service de la nation, et donc la nation lui doit. Non seulement il est obligé lui-même, en tant qu'acteur, de rendre le service, mais également la nation lui doit en retour des conditions pour bien rendre ce service.
Alors, le général a parlé aussi du recrutement des jeunes au sein des universités pour qu'ils viennent prêter main forte à la police. Actuellement, le recrutement se fait comment?
Oui, madame. D'ailleurs, nous sommes dans le processus. Nous venons de commencer. Ça sera un tout premier recrutement de façon classique des éléments de la PNC. Et comme vous savez, je viens de le dire tout à l'heure que la police est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui nécessite absolument de remplir un certain nombre de conditions de préalables pour l'exercer. Et donc, avec le recrutement que nous commençons, bien entendu, les critères sont définis par le législateur qui, dans
vous commencez le recrutement maintenant?
Absolument, là nous sommes dans le processus.
Mais il y a quelque temps, on a procédé au recrutement des policiers.
Madame, je vais vous dire que on a, c'est vrai, procédé au recrutement, mais quel type de recrutement? Est-ce que ça répondait aux normes? Non. Raison pour laquelle le commissaire général a bien insisté pour dire qu'il nous faut un recrutement qui tienne compte de la qualité. C'est pas pour rien qu'il a dit qu'il lance un appel vers la jeunesse intellectuelle pour s'intéresser à la chose de la police. Et donc, c'est ce que je dis, que le recrutement qui commence ici va prendre en compte tous les critères, toutes les conditions et tous les préalables pour pouvoir faire un recrutement qui soit le meilleur possible.
Quels sont les critères?
Naturellement, je ne peux que les citer parce que c'est inscrit dans le livre du législateur. Je sous-entends par là le statut qui porte sur les personnes de carrière de police de la police nationale congolaise. C'est notamment d'abord d'être de nationalité congolaise, ça c'est une chose, d'être âgé entre 18 et 35 ans, d'être célibataire, ça c'est 3, de 4, être de bonne moralité, très important, 5, jouir de la plénitude de ses droits civiques, ne pas être en situation litigieuse vis-à-vis de la loi, 6, n'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 3 mois de servitude pénale. 7, n'appartenir à aucun parti politique, parce que, comme vous le savez, la politique, la PNC, la police nationale congolaise, est apolitique. Et 8, fournir un extrait de casier judiciaire en cours de validité. 9. Fournir les titres scolaires requis. Voilà un ensemble de critères qui sont définis. Je peux aller jusqu'à la fin. Être reconnu physiquement apte et psychiquement bien entendu.
Ça va
et être classé en ordre utile après le concours qui va être organisé. Voilà l'ensemble des critères qui sont définis par le législateur et que nous devons respecter.
Merci, colonel Ndonda, maître général Mounoubo Moubi, député national de l'opposition et cadre de l'UNC. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez cette déclaration du général Bissé Ngimana?
Le général Bissé Ngimana n'a fait que répéter les principes qui fondent la réforme, c'est-à-dire l'idéal auquel nous devons tendre. Nous devons arriver à réaliser. Raison pour laquelle, au cours de cette émission, je demande aux parties prenantes, surtout à celles qui gèrent la sécurité au jour le jour, au gouvernement de passer aux actions. Pourquoi ? Parce qu'on parle de ces principes qu'a évoqué le général Bissé Ngimana. On en parle depuis 2003. C'est pratiquement depuis 2003 parce que la réforme a été évoquée pour la première fois en 2003. Et là, on venait de signer l'accord global et inclusif en Afrique du Sud. Accord de Pretoria, accord de Sand City. Et donc, vous constatez que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Et je me demande, quel est le vrai problème ? Lorsque le général parle de moyens, évidemment, il dit la vérité aussi. Pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas assez de moyens financiers pour matérialiser la réforme. Il existe un outil...
Pourquoi, selon vous, il n'y a pas assez de moyens financiers pour la réforme des services de sécurité ?
Il faut comprendre dans la globalité aussi. Nous avons un gouvernement qui ne mobilise pas l'argent. Il y a plusieurs réformes qui piétinent. Il y a la réforme de la police, il y a la réforme de l'armée, il y a la réforme, il y a par exemple des programmes comme le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, qui manque l'argent. Il y a les élections, vous avez suivi le Premier ministre qui a dit qu'il manquerait même l'argent pour les élections. Bref, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs initiatives qui n'ont pas de moyens. En fait, il n'y a pas une stratégie réelle au sein du gouvernement pour mobiliser les moyens. Raison pour laquelle nous naviguons toujours avec un budget autour de 8 milliards de dollars. Équivalent en franc congolais. Le défi, c'est à ce niveau-là. Et je me dis, est-ce qu'il faut le formuler comme on l'a souvent dit, problème de moyens, ou il faut toucher au vrai problème? Je crois que c'est un problème de volonté politique. Parce que le budget, c'est quoi? Le budget, c'est l'expression chiffrée de la volonté politique. Il ne suffit pas seulement de dire que nous voulons une police professionnelle, service public, proche à l'écoute des populations républicaines. Eh bien, il faut matérialiser ça. Et comme l'a dit le colonel, il faut placer les policiers. Je crois qu'il ne faut plus l'appeler colonel, évidemment, parce que
le commissaire
supérieur principal. Pourquoi ? Parce que la police, elle est déclarée service civil. Eh bien, comme il l'a dit, il faut qu'on arrive effectivement à doter les policiers des moyens, des bonnes conditions de vie et de travail.
Mais vous, en tant qu'autorité budgétaire, qu'est-ce que vous faites pour pousser le gouvernement à doter les services de sécurité des moyens suffisants?
Il faut bien comprendre les rôles du Parlement et à quel stade le Parlement intervient dans le processus budgétaire. Il y a tout d'abord les propositions qui nous viennent du gouvernement. Il n'y a aucune proposition de loi qui serait initiative des députés en matière de sécurité, de l'armée ou de la police. Il n'y a pas une initiative. Par exemple, le budget de la police. Les allocations pour la police, ce n'est pas les députés qui proposent ça. En fait, ça nous vient du gouvernement, dans la loi des finances. Et déjà, à ce niveau, on nous met quelque chose de très rétréci. Ce que nous faisons généralement, c'est quoi? L'exercice au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau de la Commission économico-financière, c'est d'opérer des coupes, de voir qu'est-ce qu'on peut diminuer dans les dépenses de fonctionnement des institutions et voir les secteurs essentiels pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, pour la sécurité du pays, la sécurité des personnes et des biens. C'est l'exercice que nous faisons. Donc souvent, on n'a pas beaucoup de marge aussi. Pourquoi ? Parce qu'on nous présente quelque chose de modique. Et le gouvernement se lamente, le Premier ministre, il dit qu'il n'arrive pas à mobiliser des fonds. Raison pour laquelle il faut être très réservé. Même l'argent, on a évoqué 580 millions de dollars, par exemple, pour les élections. Ce n'est pas évident qu'on va mobiliser tout ça. Pour arriver à mobiliser, il faut la volonté politique. Il faut lutter contre tout ce qui fait à ce que l'État ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir dans sa caisse.
Donc, si c'est à ce niveau bien, que se situe le problème. Maître Mounoubo, si aujourd'hui on n'a pas encore une police professionnelle en RDC, c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique.
Oui, oui, c'est ce qui coiffe tout, en fait. C'est la raison principale, en fait. Il y a les problèmes, des raisons qui apparaissent directement, c'est manque de moyens, par exemple. Mais je parle de volonté politique, pourquoi ? Parce qu'il y a des actions aussi, Mme Kelly, qui ne demandent pas beaucoup de moyens aussi. Je vais vous citer un exemple. Il existe un organe, c'est un organe de contrôle au sein de la police, qu'on appelle Inspection Générale de la Police. Donc, s'il y a des abus commis par des policiers, on voit par exemple les cas à l'époque de l'ICOFI, il y a un rapport publié par une organisation de droits de l'homme dans ce sens, eh bien, on devrait avoir au sein de la police un organe qui reçoit les plaintes, les doléances dans ce sens, un organe de contrôle, un organe un peu disciplinaire au sein de la police. Mais cet organe n'a pas encore son décret de fonctionnement. Il y a un décret du Premier ministre qui devait être signé. C'est passé en commission de loi au sein du gouvernement. Ça doit passer encore en conseil des ministres et pour que finalement le Premier ministre signe. Est-ce que vous me direz que pour signer ce décret portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale, il faut des moyens financiers? Je ne le pense pas.
Merci.
Donc, pour éduquer les policiers aux droits humains, éviter que demain, après demain, qu'il y ait encore moult accusations sur des violations de droits de l'homme, il y a des actions qui demandent plus d'engagement et pas forcément de moyens financiers. Donc,
merci,
je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut de moyens, évidemment, et il ne faut pas se contenter avec les budgets d'une année, il faut tout un outil de planification pluriannuelle qui prévoit des dépenses d'investissement, mais il faut une grande dose de volonté politique parce qu'il y a des actions qui ne demandent pas forcément beaucoup d'argent.
Merci, Maître Mounoubo. Jean-Jacques Ondo, vous êtes expert militaire et analyste politique. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration du général Bissé Ndimana?
Oui, Madame, écoutez, il faut d'abord saluer cette volonté des autorités de la police de professionnaliser davantage la police. Cependant, il faut remarquer qu'en République démocratique du Congo, il y a une certaine propension dans les chefs des autorités publiques de se lancer dans ce que je qualifie de faits d'annonce, qui ne sont pas en grande partie ou en grande majorité suivis d'actions concrètes sur le terrain. Je rappelle qu'en 2012, à deux reprises, après la chute de Goma, le chef de l'État a déclaré d'abord devant le Parlement réuni en Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, et ensuite, lors de son discours de fin d'année, de faire du secteur de la sécurité une priorité des priorités. Mais cette priorisation de ce secteur devant se traduire par la professionnalisation de l'armée et de la police, ce qui ne semble pas avoir été le cas deux ans après, si on s'en tient aux discours, aux déclarations faites par le commissaire général de la police, qui revient encore sur cette nécessité de vouloir professionnaliser l'armée. C'est comme si cette déclaration qui a été faite, ou ces deux déclarations qui ont été faites en 2012, n'ont pas été mises en application sur le terrain. Et là, je rejoins déjà en partie le député Mounoubo quand on parle de questions de volonté politique. Je peux citer de mémoire, il y a quelques mois, dans un autre domaine, les états généraux de la justice étaient mis en mai dernier, avec FAST, avec les recommandations qui étaient prometteuses. Mais six mois après, on peut constater que les actions et les résultats sur le terrain laissent à désirer. La justice est encore loin d'être un pilier de la démocratie et semble ne pas jouir de son indépendance prévue par la Constitution. Mais lorsqu'on parle de la professionnalisation de la police, on passe évidemment, comme l'a dit le commissaire général, aux moyens alloués à la police. Et comme l'a aussi évoqué le député Mounoubo parlant du budget, le budget reste une estimation des dépenses et des recettes et présente surtout un programme du gouvernement en ce sens que la portée politique du budget constitue le reflet chiffré de l'importance qu'un État ou les autorités accordent ou entendent accorder au secteur jugé priorité de priorité que le secteur de la sécurité. Et à ce sujet, Là où je reste très sceptique, c'est que, parlant du budget de la police, je vois mal comment cette déclaration du commissaire général peut être suivie de matérialisation concrète dès lors que le budget pluriannuel de la police a été déjà déterminé dans le cadre de la loi de programmation de la réforme de la police 2014-2015. Et pour vous donner quelques indications au niveau des chiffres, il s'agit d'une loi qui détermine le budget de manière pluriannuelle étalée sur 4 ans, en vue de répondre notamment aux besoins de fonctionnement et d'investissement de la police, de professionnalisation et de modernisation de la police. Pour le cas d'espèce, le budget concerne environ, je donne des chiffres gros, 750 milliards de francs congolais, qui équivalent plus ou moins à 800 millions de dollars répartis sur 4 ans. Et si on fait des calculs, ça donne environ un budget autour de 200 millions de dollars par an. Et il faut se dire que sur base du recensement biométrique de la police, on estime la police aux alentours de 107 000 policiers. Ce qui revient à dire que pour sur base annuelle, sur une année, un policier a un budget grosso modo de 1 800 dollars, qui équivaut par mois à 150 dollars de dotation budgétaire prévue pour un policier. Et dans ces 150 dollars, il faut compter, il faut inclure l'équipement, l'armement, la logistique et aussi sa paye. Quand le commissaire général demande aux autorités d'allouer, de mettre plus de moyens, comment peut-il le mettre? Parce que le budget a été déjà voté. Donc, quelque part, on se demande si ce n'est pas juste un effet d'annonce dont on voit mal la manière dont elle va se concrétiser. Mais il y a aussi un autre aspect que je peux développer plus tard qui concerne l'aspect de la formation de la police. Et ici, je pense que c'est un point capital et ça a été réalisé, je pense, par un intervenant au début de l'émission ou un éditeur qui a parlé de la formation. Mais je pense qu'on peut y revenir un peu plus tard dans le débat.
Alors, en parlant de la formation rapidement, M. Wondo, combien de temps faut-il pour avoir une police professionnelle bien formée?
Combien de temps, c'est difficile de pouvoir quantifier parce que pour pouvoir avoir une police bien formée, il faut d'abord avoir un plan de réforme de la police. Et dans ce cadre, il y a eu au moins 2 plans qui ont été élaborés. Et ici, le problème se pose plutôt, comme l'a dit le député Mounibo, au niveau de la volonté politique. Quand on est déterminé un plan, et le colonel l'a dit, c'est un plan qui peut s'étaler sur un certain nombre d'années. Ben, le plan doit prévoir des échéances précises au terme desquelles on peut faire des évaluations pour voir si on est dans le bon ou s'il faut rectifier le tir. Or ici, généralement, quand on élabore un plan à un certain moment, ces plans ne sont plus exécutés comme il faut, et puis par après, on vient avec d'autres plans sans tenir compte des erreurs, de l'échec et du plan précédent.
Merci.
Donc, au niveau de la formation, ce n'est pas ça le problème, c'est question vraiment de volonté politique de vouloir appliquer strictement des plans qui ont été élaborés sur base des indicateurs bien précis de sa performance.
Merci, M. Wondo. Monsieur le commissaire supérieur principal, Jean Bosco Donda, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
Serge Kabeya, depuis la province du Kassai-Oriental à Mbujimayi. Je me demande ce que le commissaire général entend par une police véritablement professionnelle. Son initiative est louable, mais elle n'est pas la première car il y en a jailli autant. Entre autres, la réforme de la justice, FADC, la PNC, la police scientifique et récemment la police de proximité. Pour y arriver, il y faut appliquer beaucoup de facteurs. Je peux citer l'alphabétisation totale et globale du niveau de la PNC, l'assainissement du champ professionnel policier, l'amélioration des conditions de vie des policiers dans la vie sociale. Pour y parvenir, il serait mieux qu'il se pose la question pourquoi sa police n'a jamais été professionnelle. Enfin, je me pose souvent les questions, notre police nationale est-elle apolitique ou politique? Pourquoi les politiciens l'utilisent à leur propre fin? Et surtout pendant la période électorale. Est-ce ça son rôle? Que le général Bisengiman mette la police au service du peuple?
Réaction, colonel Donda.
Je vais commencer par le dernier aspect de sa question. Uh-huh. Je veux savoir si c'est une police politique C'est dommage. Oui, la politique, c'est dommage parce que notre correspondant, peut-être qu'il ne lit pas les textes, mais je vais quand même lui rappeler que la Constitution consacre une police qui est apolitique. Lorsqu'on dit qu'une police est apolitique, ça veut dire quoi? La police, c'est une institution publique au service de la nation et bien entendu, elle est la gardienne des institutions légalement établies. Il faut qu'ils retiennent ça. Demain, je ne sais pas si c'est un policier ou un fonctionnaire ou un citoyen, demain il sera au pouvoir et je crois qu'il trouvera la même police qui va sécuriser les institutions auxquelles il va appartenir. Et donc, la question de savoir si notre policier est politique ou au service des politiciens, non. Ça, c'est une mauvaise lecture, justement, de la chose. La police est au service de la nation. Lorsqu'on dit qu'elle doit sécuriser les personnes et les biens, elle ne fait pas un distinguo entre l'homme politique, l'homme civil ou l'homme ordinaire. Et donc, je veux dire par là que il suffit simplement qu'il se réfère à la Constitution pour se rendre compte que la police est une institution apolitique. Les policiers ne font pas de la politique. Les policiers sont sous les ordres de l'autorité politico-administrative. Aujourd'hui, demain et toujours. Et l'homme politique aujourd'hui peut être soit dans l'opposition, soit au pouvoir. Dès l'instant qu'il est au pouvoir, il se sert de la police pour sécuriser tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est tout à fait clair.
Et donc, vous rassurez cet auditeur que la police nationale congolaise est apolitique?
Je ne peux pas le dire en d'autres termes. Si justement d'insister pour lui dire qu'il prenne connaissance des textes qui régissent la police, ou qui créent la police, ou la Constitution, qui est la loi fondamentale, pour qu'il se rende compte qu'effectivement, sur le plan de ces textes-là, la police est apolitique. Et sur le plan des faits, la police est apolitique. Elle n'agit que sur réquisition. Voilà. Ça, c'est une réponse à cet aspect de la question. Il dit...
Qu'est-ce que le général entend par police véritablement professionnelle?
Voilà, mais c'est tout à fait clair, madame. Vous savez, le Congo n'est pas le seul pays à avoir un service public dit police nationale. Partout dans le monde, il y a la police. Et lorsqu'on dit qu'une police elle est professionnelle, c'est par rapport justement à sa manière... À l'usage de ces méthodes pour justement exercer les missions qui lui sont confiées. Et dire qu'elle est professionnelle, ça veut dire quoi en fait, en termes clairs? C'est une police bien équipée, bien formée, qui agit au moment opportun, qui sait respecter les lois de la République et qui sait respecter également les droits de l'homme. Grosso modo, ce sont les éléments de réponse que je voulais bien donner à cette notion de professionnalisme. Ça ne sous-entend pas autre chose, il n'y a pas de la philosophie dedans. J'ai dit, une police au service de la nation, une police respectueuse des lois, une police respectueuse des droits de l'homme, une police bien équipée et bien formée. Voilà tout.
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. C'est le cas de Serge Bobanza depuis Lubumbashi. Il dit ceci, le commissaire général parle de la professionnalisation de la police et des moyens. Nous pouvons d'abord savoir comment ces policiers sont recrutés et comment et sur base de quoi ceux-là qui ont des promotions l'obtiennent et sur base de quels critères. Les moyens dont parle le commissaire, il ne sait pas que la police est parmi les institutions qui font beaucoup d'argent avec les amendes transactionnelles et la garde des policiers dans différentes maisons. Où va tout cet argent? La police peut créer ses propres moyens et subvenir aux besoins de son bon fonctionnement sans tracasser la population et avec juste un petit soutien du gouvernement si ceux-là qui la dirigent mettent du sérieux.
Bien, madame. Le premier aspect de la question, c'est il veut savoir où, comment sont recrutés les policiers. Je crois que je risque de revenir encore
sur l'équité
des cités. C'est une réponse que j'avais déjà donnée par rapport à la même question, donc je ne vais plus y revenir. Et il pose la question, où va l'argent que la police produit? C'est vrai, la police c'est aussi un service générateur de recettes. Mais il y a le trésor public. Il n'y a pas un seul service de l'État qui produit l'argent et qui le consomme à la source. Non. L'argent de l'État va dans les comptes du trésor public. OK? Et le trésor public, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Donc, s'il faut améliorer les conditions de vie du policier par rapport à sa motivation, par rapport à son équipement, par rapport... C'est le gouvernement congolais qui doit le faire.
Merci, merci, colonel Sambosko Donda. Maître Mounoubo, il y a aussi cette réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Godefroy Kianga, depuis Bukavu au sud Kivu. La proposition du commissaire général de la police nationale congolaise est salutaire. Dans la mesure où chaque État qui se veut des droits doit avoir une police véritablement professionnelle et respectueuse au service de l'État et de la population qu'il est censé protéger. Par ailleurs, la police devrait être apolitique dans son vrai sens. Il faudrait qu'il y ait la volonté politique de la part des autorités qui sont au pouvoir de doter ces récits de tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.
Alors, il revient aussi sur la bonne volonté, la volonté politique pour avoir une bonne une police professionnelle. Comment vous réagissez à la réaction de cet auditeur?
Je suis très heureux parce que c'est un citoyen, en fait, un auditeur qui l'a dit. Et nous l'avons dit au début lors de notre première intervention dans le cadre de cette émission. Comme l'émission a aussi, je crois, un but éducatif, c'est important d'expliquer c'est quoi une police apolitique. Une police apolitique, c'est une police qui ne peut pas être à l'obédience d'un parti politique ou d'un homme politique. Une police qui est au service de la nation.
Est-ce le cas?
Une police qu'on ne peut pas détourner de ses propres, à ses propres fins. Vous ne pouvez pas la détourner à vos propres fins. Ça, c'est l'article 4 de la loi organique. Là, c'est le normatif. C'est ce qui devrait être. C'est le texte de loi. Et il faut faire toujours la différence entre ce qui devrait se passer et ce qu'on vit, ce qui se fait en pratique. Parce que la réalité, c'est que on s'interroge souvent sur l'attitude de la police. Les policiers, est-ce que ce sont ceux-là qui s'abstiennent d'exécuter des ordres illégaux? Est-ce que ça arrive toujours qu'il y ait au sein de la police les refus d'exécuter des ordres manifestement illégaux? Pourquoi? Parce qu'une police professionnelle, c'est justement une police qui affirme son caractère apolitique. Donc, pas une police des individus, pas une police pour la protection d'un régime, mais une police institution pour la protection des personnes et des biens, pour la sécurité publique, pour la sécurité des personnes et des biens, pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Donc, la police, comme l'a dit le général, comme nous le souhaitons, c'est qu'elle soit réellement une police apolitique. Et on ne peut pas se contenter de ce qui est prévu dans les textes, et il ne faut pas se presser à affirmer que notre police, elle est apolitique, parce que dans la pratique, souvent, nous vivons le contraire. Nous avons vécu le contraire, par exemple, au mois de janvier de cette année, lorsqu'il y a eu des manifestations contre pour le retrait de l'alinéa 3 de l'article 8, la loi électorale. Il y a eu des manifestations pacifiques, mais vous avez vous-même, mais quelle a été, on peut faire le bilan de ce qu'a été l'attitude de la police. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il ne faut pas se complaire et penser qu'on a fait grandement des progrès. Il faut souligner l'ampleur de la tâche et lorsqu'on est modeste pour avouer qu'on a encore du chemin à parcourir, on peut véritablement améliorer et gagner en confiance et envers le peuple congolais et envers les partenaires extérieurs, certains qui se sont un peu découragés de l'attitude de la police.
Alors, il y a Binde Le Chartel, c'est pour vous, Maître Mounoubou, qui dit ceci. Lorsqu'on parle de la mauvaise foi de la part du gouvernement, est-ce le seul moyen qui peut amener à l'efficacité de l'action d'une institution si à une certaine période, la RDC a pu donner les moyens? Aujourd'hui, qu'on se les dise, les moyens sont limités.
Mais pourquoi les moyens sont limités? C'est ça la question importante. Comment il y a des pays qui nous sont limitrophes? Et qui, si vous voyez les potentialités naturelles, les Congo les dépassent très loin. Mais qu'est-ce qui explique que nous n'évoluons pas avec notre budget? Ça fait 4 ans que je suis député national et chaque fois le gouvernement nous dépose, en tout cas ce que je constate, c'est un budget toujours modique. En dépit des actions de contrôle parlementaire, il n'y a pas eu un bond en termes de mobilisation des recettes. Et le contexte international actuel, comme vous le savez, n'est pas très très favorable, surtout dans les secteurs miniers. Mais le gouvernement devait prévoir tout ça. Il a toute une série de réformes à opérer, et les élections l'année prochaine. Donc je crois qu'il manque un peu l'anticipation, parce que gouverner, c'est prévoir, et la stratégie de mobilisation et de l'allocation des ressources, ça doit être une grande stratégie au sein du gouvernement, mais dommage qu'on n'observe pas jusque-là. Et nous, ce que nous allons faire, c'est continuer à pousser le gouvernement à davantage de volonté politique.
Merci, Maître Mounoubo. Monsieur Wondo, il y a aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
John Kamangou, depuis Kinshasa, prendre des décisions est une chose et les exécuter en est une autre. Ce n'est pas la première fois que de telles annonces sont faites en RDC, car nous avons même vu dans ce pays une mission européenne nommée EPOL venir avec une même mission qui s'est assignée aujourd'hui. Les générales, et presque 10 ans après, rien de palpable sur terrain. Ainsi, nous demandons à ce que cette décision du général soit suivie d'un soutien honnête du gouvernement avec un audit véritable sur son plan d'exécution, car ces policiers non seulement font face à une instabilité salariale, mais aussi sous-occupés et incapables de faire des interventions dans des embuscades dans les coins périphériques de la ville de Kinshasa.
Monsieur Wondo, réaction.
La réaction, je pense que l'intervention de l'auditeur est dans le prolongement de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que on n'alloue pas suffisamment de moyens à la police pour lui permettre de faire de bonnes interventions ou de bien accomplir ses missions. Mais ici, il faut revenir aussi toujours sur cet aspect que le député Mounoubo a relevé, la question de volonté politique. La sécurité, comme on a tendance à le dire, c'est comme une assurance. Et c'est toujours difficile de pouvoir sortir l'argent pour pouvoir payer l'assurance. Mais le jour où on est malade ou on a un accident, on sait que l'assurance est là pour pouvoir vous venir en aide, pour pouvoir payer les indemnités de l'accident. Et il en est de même pour la sécurité, notamment la police. Or, comme on peut le constater, depuis 2003, depuis qu'on a lancé les différents plans de réforme aussi bien de l'armée que de la police, on sent un balbutiement au niveau de la volonté politique de mettre effectivement des moyens et de la détermination pour pouvoir mener comme il faut ces réformes, surtout que la sécurité reste un secteur qui est central dans le cadre de du développement. Les études scientifiques, les études montrent que montrent une corrélation entre le développement et la sécurité. Et souvent, on a tendance à considérer la sécurité comme une propriété privée qui est gérée parfois dans des cabinets parallèles où vous avez parfois des ministres qui sont sans portefeuille et tout ça, parce que ça met à mal toutes les réformes qui ont été initiées. On parle de la réforme de Pornef qui a eu un plan de continuation pour pouvoir ne fût-ce que entretenir les acquis de ces réformes qui ont quand même apporté certains fruits, qui ont permis à certaines formations d'être données aux policiers, mais est-ce que ces formations ont été continuées, surtout que la formation reste au cœur même de la professionnalisation du policier, notamment en termes du respect des notions de droits de l'homme, et surtout que dans les interventions, les policiers doivent être appelés à travailler sur une certaine équipe. Ce qui fait que par ses actions, par ses interventions, les policiers doivent contribuer à la matérialisation, à l'effectivité de la démocratie et de l'état de droit. Mais malheureusement, on peut constater que avec les résultats sur le terrain, avec les interventions. On a parlé des événements de janvier, mais on peut citer aussi d'autres opérations menées par la police. Il suffit de lire les différents rapports établis par les différents organes des droits de l'homme pour montrer que cette police est loin d'être cette police capable de pouvoir sécuriser le pays, donc de pouvoir assurer cette conscience aux populations. Et dans une situation d'insécurité, il ne faut pas espérer grand-chose en termes de, d'évolution, en termes de développement.
Monsieur Wondo, il y a Mwamba Mukongo, voilà, qui dit ceci, la police nationale congolaise est confrontée à beaucoup de problèmes, le plus grand étant la gestion des moyens mis à sa disposition. À cela s'ajoute la qualité intellectuelle et morale des éléments recrutés pour exercer le métier. Si le général veut professionnaliser la police, il doit premièrement lutter contre les détournements des salaires et autres dotations à la police, se fixer un certain niveau intellectuel comme condition des recrutements, sanctionner surtout par l'exclusion, les éléments affichant une mauvaise moralité. Les moyens à eux seuls ne feront rien tant que les autres difficultés ne seront pas prises en compte.
Ben je partage cet avis parce qu'il parle d'abord en premier lieu du détournement des fonds au niveau des services de police. Il faut se poser la question pourquoi les policiers arrivent à détourner des fonds. Et tout à l'heure, j'ai fait état du budget du policier. Je dis, il a un budget moyen de $150. Hein, $150 à son salaire et tous les faits liés à son fonctionnement. Comment un policier normal qui est censé assurer la sécurité des gens et des biens peut mieux vivre, mieux travailler, travailler dans de bonnes conditions avec ce salaire. Donc, quelque part, il sera obligé de pouvoir chercher à arrondir certains de mois par des moyens illégaux. Il a insisté aussi sur un autre aspect sur lequel je voulais insister particulièrement ce soir, concernant la formation, donc, qui est un facteur important pour la professionnalisation. Cette formation doit par exemple comporter le module de socialisation, c'est-à-dire de l'acquisition de l'éthique policière, de formation aux procédés techniques et pratiques d'intervention en strict respect des principes légaux ou juridiques de légalité, de proportionnalité et d'opportunité et de la compréhension par les policiers de leur rôle spécifique dans une société qui se veut démocratique. Parce que si on ne met pas l'accent sur ces aspects où le policier doit être au service de l'état de droit, nous risquons de passer à côté et de revenir à un état dans lequel le Congo était entre 1965 et 1997, et même jusqu'à présent, après ce début du processus de démocratisation, dont les signaux nous sommes plutôt...
Merci, M. Wondo. Il nous reste plus beaucoup de temps. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Colonel Jean Bosco Ndonda, beaucoup de réactions. Monsieur Baïziré qui dit ceci, dans notre pays, se croiser avec un policier et créer un climat de sécurité, mais en RDC, c'est le contraire. On ne peut pas croiser un policier sans être extorqué, téléphone, argent, etc., etc. Hussein Mouemedi, quand les moyens et la volonté sont là, tout est possible, mais que la police soit là pour protéger la population et non pour protéger les intérêts des hommes politiques. Il revient encore sur la politisation de la police. Kitanga Kabale Cyprien dans le Tanganyika, la déclaration du commissaire est à saluer, mais une chose que nous déplorons, la police nationale congolaise est devenue politisée. Alors, vous allez répondre à ces préoccupations et puis conclure. Hein.
Merci beaucoup, madame. Je crois que je voulais placer un petit mot par rapport à la volonté politique à laquelle on est... régulièrement revenu par rapport à cette émission. Je crois que cette volonté politique, évidemment, moi je ne fais pas de la politique ici, il est vrai.
Il nous reste
mais c'est affiché, cette volonté politique. Le fait même d'avoir pris l'initiative de réformer la PNC, c'est une volonté. Okay? Le fait même d'avoir entamé la mise en œuvre de cette réforme par le Conseil général, c'est une volonté. Mais les moyens, c'est une autre chose. Vous comprenez? Les moyens, c'est une autre chose pour que cette volonté se matérialise de façon efficace. Je voudrais dire, c'est un petit mot pour dire que, par rapport à cette volonté, je crois qu'il faut considérer la police comme un enfant au sein d'une famille, qui est le gouvernement, lorsque les parents ne disposent pas suffisamment de moyens. En dépit de leur volonté, je crois qu'ils ne peuvent pas être efficaces par rapport aux besoins que ressentent les enfants.
Merci.
Ça, c'est une chose.
Merci.
Je vais terminer.
En amont, il n'y a plus beaucoup de temps.
Voilà, tout à fait. Et par rapport au refus d'exécuter des ordres manifestement illégaux, non. Raison pour laquelle nous disons, nous devons former les policiers de manière qu'ils comprennent que lorsque un ordre est manifestement illégal, qu'ils ne l'exercent pas.
Merci, colonel. Honorable Mounoubo, juste une phrase pour conclure.
Oui, je demanderai au gouvernement de mobiliser le peu de budget prévu cette année, les 169 millions de dollars, qui mobilise d'abord ça. Et puis, il faudrait maintenir constant à l'esprit que la police de proximité, c'est une bonne philosophie qui consiste à rapprocher la police de la population, à la population, et il faudrait mettre l'accent sur ça et étendre cette expérience à travers le pays.
Merci Maître Mounoubo, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.